Bienvenue dans l'ère du jeu, votre rendez-vous qui parle de jeux vidéo, de high-tech. J'espère que vous allez tous très très bien pour ce délicieux week-end de Pâques. J'espère que vous avez été gâtés, que vous avez trouvé tous les œufs, que vous allez vous empiffrer de chocolat ou pas. C'est pas encore.
C'est demain la chasse aux œufs en fait.
Ah bon ben.
Il faut se préparer, il faut s'échauffer.
Voilà. Faut s'entraîner pour les trouver.
Voilà, bon. du coup, j'annonce tout de suite les gens qui sont avec moi autour de la table. Alors pour rappel, c'est moi Anas hein, de l'association Game Age, l'association qui réalise l'émission. Et on a donc Marjo, honoré dame, Marjo de Game Age, qui est avec moi aujourd'hui. Salut.
Bonjour à tous.
Bonjour à tous, dit-elle. Waouh, formidable. Et on a Griff de DigiWave.
Salut.
Voilà, la super web TV DigiWave, dont tu nous reparleras d'ailleurs dans un instant, puisqu'on... Ouais. J'enchaîne directement sur le sommaire.
Allez, on les fout.
Puisque sur ce sommaire, aujourd'hui, on va parler donc des web TV et des télé. Enfin, de tous ces médias un peu, on va essayer d'éclaircir un peu les choses, voir qui regarde quoi, pourquoi, comment, voilà, les intérêts, les avantages, comment ça fonctionne. On va essayer de discuter un peu de ça. On parlera dans un deuxième temps, toujours dans la continuité de ce qu'on avait fait, des dangers des écrans, notamment pour les enfants. Aujourd'hui, on parlera des addictions, voire de la pornographie. Donc on va voir si on aura le temps de placer la pornographie. À mon avis, ça sera pour une autre émission. Donc je commence à faire un teaser pour la prochaine fois.
Hors contexte, si des gens allument la radio à ce moment-là, ça peut être super bizarre. On verra si on peut parler de la pornographie.
Enfin, des risques, notamment de la pornographie pour nos enfants via les écrans. Hein. Je le resitue, tu fais bien de le dire. Et en dernière partie, donc on continuera avec un peu notre... je sais pas, il faudrait que je trouve un nom plus glamour que peau pourrie. Si vous avez des suggestions...
où on parle de news.
C'est pas mal.
Donc le sac de news, tout ce qui se passe dans la région lyonnaise et un peu plus, voilà. Donc on débattra de tout ça. Est-ce que ça vous va comme programme, vous, autour de la table?
Est-ce qu'on a le choix?
Oui, tu peux.
Moi, je suis chaud, là. Si tu veux, ça va se lancer avec ton connaît.
Mais oui, bien sûr.
Très bien. Alors, juste le temps de rappeler que, donc, l'ère du jeu, c'est tous les samedis de 12h à 13h. Vous pouvez retrouver les podcasts sur la page Facebook de Game Age, donc l'association qui réalise le tout. Vous pouvez nous laisser des commentaires. Vous pouvez réagir aussi en direct via le hashtag R du jeu, RDUJEU, en direct sur Twitter. Je tiens particulièrement à remercier Sébastien, donc Griff, pour cette émission aujourd'hui, puisque c'est lui qui a motivé les troupes. J'étais parti pour faire une petite rediff, et puis il m'a dit, mais non, on peut se le faire, et bim, allez, on est tous là, on est chaud bouillant.
Voilà, on est trois, du coup, c'est parfait.
Est trois, et voilà, c'est les trois meilleurs. Voilà.
C'est ça.
Et aussi l'occasion de rappeler aussi d'aller sur ta chaîne Web TV DigiWave. Mais on va y revenir dans un instant. On va lancer tout de suite, l'émission. C'est parti.
Yeah.
On est parti. Donc aujourd'hui, comme je le disais dans le sommaire, on va parler un peu des web TV. Alors déjà, tiens, je vais te poser la question à Marjo.
Allez, voilà, ça y est, question piège.
Non,
c'est
pas du tout une question piège. C'est juste pour savoir comment tu définirais toi les web TV. Pour toi, qu'est-ce que c'est qu'une web TV?
Alors, de ce que je pense savoir, une web TV, c'est comme une télé qui se regarderait sur l'ordinateur, sur Internet. Et c'est comme à la télé où il y a des chaînes avec des programmes. Et en fait, ce qui est peut-être différent, c'est que il n'y a pas peut-être 10 ou 100 chaînes en possibilité. Il y a peut-être des milliers de possibilités de choses à regarder. Je sais pas. Sébastien va me corriger.
Voilà. En fait, c'est vrai qu'on a un spécialiste. Tiens, tu peux nous rappeler ton rôle quand même dans DigiWave?
Ouais, je suis le président et fondateur de DigiWave, donc qui est une association depuis 2 ans.
Oui.
Et on passe en société bientôt. Donc on se professionnalise. Donc du coup, alors, j'ai vraiment vu tout un parcours. Et moi, je travaille un petit peu dans l'univers de la vidéo et de YouTube depuis 2010. Donc j'ai vraiment vu, on va dire, tout ce mouvement naître et évoluer. Alors là, je parle vraiment au niveau du jeu vidéo, parce que je pense qu'une web TV, on peut avoir plusieurs définitions de la web TV. On peut très bien dire que quelqu'un qui diffuse quelque chose sur Internet, de la vidéo, hein, je parle, on est tout le temps dans la vidéo, ça, bon, TV, télévision,
oui.
Donc on est tout le temps dans la vidéo. On peut partir du principe que tout simplement une diffusion d'une conférence, par exemple, sur Internet, en vidéo et en audio, peut être considéré un petit peu comme de la web TV finalement, Ça, c'est une façon de voir les choses, je pense. Moi, ma façon plutôt de voir les choses, c'est que une Web TV, effectivement, comme tu l'as dit, c'est un groupement de personnes qui vont monter une télévision, soit sur un thème, soit de manière un peu plus généraliste, et qui vont diffuser leurs émissions sur Internet en mettant à profit tous les éléments de communication, on va dire un petit peu numérique, quoi. Donc ça soit des chats où les gens pourraient du coup réagir en direct à l'émission, ou par exemple Twitter qui est très utilisé, qui est même utilisé à la télévision maintenant finalement.
Oui,
on voit beaucoup d'émissions aujourd'hui où ils disent utiliser le hashtag, les hashtags c'est des mots clés pour ceux qui ne sauraient pas éventuellement. Utiliser le mot clé par exemple le nom de l'émission, comme on fait avec l'air du jeu.
Exactement.
Est-ce qu'on peut dire que hashtag c'est ce qu'on appelait avant dièse?
Oui, c'est ça. Il y a des personnes qui disent dièse.
Parce qu'il y a des mots qui remplacent d'autres mots et c'est parfois les gens sont perdus. Genre, c'est quoi ce truc, hashtag, ou ils n'arrivent pas à le prononcer. Mais tout simplement, c'est un mot anglais, mais avant on disait le dièse, quoi.
Ouais,
comme tout le monde le connaît sur sa touche de téléphone. Donc voilà, c'est un mot anglais qui veut dire dièse.
Voilà.
Donc,
tout à fait. Dièse, on met un mot tout attaché, il faut pas d'espace, sinon ça marche pas. Et c'est comme ça qu'après, on peut trouver sur Internet, en cherchant ce mot, avec le dièse, comme tu l'as dit, pour retrouver des choses qui pourraient nous correspondre, en fait, des sujets qui pourraient nous intéresser.
Ouais, et ça, c'est le fondement même de Twitter, hein. Donc, ceux qui connaissent pas Twitter, vous avez un mot-clé, vous mettez le hashtag, vous pouvez avoir toute une liste de choses qui ont été référencées. Donc, des gens qui ont utilisé ce mot-clé, et vous pouvez voir tout ce qui a été dit là-dessus.
Qui est utilisé d'ailleurs, maintenant par Facebook, par Instagram, par énormément de réseaux sociaux.
Et on voit du coup, comme tu dis, que les médias, notamment les nouveaux, enfin les anciens médias, j'ai envie de dire, comme la télé, la radio, se mettent à utiliser un peu ces nouveaux médias comme le Facebook ou Twitter pour avancer.
Et du coup, il y a deux choses pour bien souligner ce que Sébastien a dit. Et si j'ai bien compris, c'est que, il y a des programmes, mais maintenant on en fait de plus en plus la promotion. Enfin, c'est-à-dire qu'avant on l'annonce sur divers plateformes, etc. Donc on invite les gens à regarder, enfin comme à la télé, il y a un teaser où il y a une annonce ou qui redit que la semaine prochaine une série va commencer. Je crois que maintenant les personnes qui gèrent ces web TV font de la pub aussi en mettant un petit message sur Facebook, regardez-nous de telle heure à telle heure, on va parler de ça. Et puis le côté interaction. Où du coup, pendant que il y a du contenu qui est diffusé, ben les gens peuvent échanger, faire des commentaires.
Tout à fait.
Et là, c'est à la fois sur Internet et à la fois à la télé, quoi.
Alors juste pour situer la chose, hein, donc vous avez donné vos définitions. Moi, j'ai cherché un peu vraiment s'il y avait une véritable définition au mot Web TV. Alors ils ont fait une définition très très simple, hein, c'est diffusion d'un contenu vidéo sur le web via un système de lecture en continu.
Ouais, c'est la définition que j'avais donnée au tout début.
Voilà, c'est ça. Donc très simple, hein, au final, c'est de la vidéo qui est diffusée donc sur Internet et qu'on peut regarder, consulter. Maintenant, toi justement, tu vas pouvoir nous le dire. Il y a des chaînes de web TV ou comment ça se passe concrètement là-dedans? Ou c'est vraiment une web TV ou YouTube par exemple? Est-ce que c'est une web TV déjà pour commencer?
Pas vraiment. En fait, c'est assez compliqué parce qu'on peut vraiment définir la chose de plein de. Enfin, ça peut prendre énormément de formes différentes. Mmh. YouTube propose la diffusion en direct aujourd'hui. Donc, on peut considérer que c'est de la web TV.
Oui.
Tout le monde peut faire des conférences ou des webinaires. Les webinaires, c'est tout simplement des conférences en ligne où on n'a pas besoin d'être dans un amphithéâtre, par exemple, avec du public. C'est des choses qui se font déjà depuis plusieurs années et sur plein de sujets, pas que le jeu vidéo. C'est important de le préciser parce qu'il y a vraiment tout type de contenu. Mais YouTube, finalement, c'est plus un système de vidéo à la demande, je dirais. Et c'est pour nous, en tout cas, en tant que DigiWave, c'est plus un outil complémentaire qui permettrait aux personnes de se retrouver et de revoir les contenus qu'on a diffusés, ou alors des vidéos exclusives, parce que du coup, dans les petites web TV, c'est-à-dire ceux qui n'ont pas vraiment le budget pour avoir un studio ou une équipe derrière de d'une dizaine ou cinquantaine de personnes, comme on l'a dans les télévisions classiques, on peut pas forcément diffuser du contenu monté tout le temps, donc YouTube nous permet justement de diffuser ce type de contenu-là. Parce qu'il faut savoir que nous, dans notre politique, en tout cas chez DigiWave, c'est que quasiment tout le contenu est en direct.
Oui, d'ailleurs, je vais pas dire que c'est quelque chose de global, mais c'est assez fréquent d'ailleurs que tout ce qui passe sur les web TV, ça soit du direct, hein. Surtout côté jeux vidéo. Après, c'est vrai qu'on connaît peut-être un peu moins les autres.
Les vraies chaînes, enfin, veut dire qu'il y a maintenant toutes les chaînes font des web TV, c'est-à-dire que même TF1, on peut regarder en ligne, donc on peut considérer que c'est aussi de la web TV. Mais là, c'est un petit peu différent.
Ouais, c'est encore différent.
Disons que la plupart du temps, c'est du direct. Et c'est la grosse différence, je dirais, avec les télévisions traditionnelles. Aujourd'hui, il y a beaucoup moins d'émissions en direct. Mmh. Là, c'est tout instantané, en fait, en quelque sorte, avec quelques secondes de délai entre le moment où le flux est lancé et le moment où la personne qui regarde va le recevoir. Mmh. Mais sinon, ouais, c'est de l'instantané, c'est du direct.
J'ai une question du coup, donc enfin pour démocratiser, enfin je trouve plus le mot, mais enfin pour re-expliquer aussi, il y a des gens qui prennent en cours. Donc on parle des web TV et du coup c'est du direct mais sur internet. Comment est-ce qu'on peut trouver quelque chose qui nous intéresse, par exemple, enfin comment est-ce qu'on peut trouver une web TV? On tape dans Google je sais pas, web TV plus un mot clé ou quelque chose comme ça, parce que à mon avis il y a plein de possibilités, plein de sites qui existent, mais comment les trouver en fait?
C'est une question assez compliquée parce qu'il y a il y a plein de réponses possibles.
C'est ça.
Il y a Twitch notamment pour le jeu vidéo. Twitch qui est donc l'acteur numéro un au niveau du live streaming maintenant d'une manière globale, parce que avant c'était exclusivement jeu vidéo et maintenant ils proposent à nouveau d'autres choses. Par exemple la marque Adobe qui fait Photoshop, Illustrator et tous les logiciels on va dire de création numérique ont une chaîne, ou plusieurs chaînes dans plusieurs langues et proposent quasiment tous les jours des émissions d'une heure de midi à 13h sur un logiciel en apprenant des nouvelles techniques aux personnes qui regardent. Et du coup, c'est des professionnels et les gens peuvent poser leurs questions directement.
Ça, c'est cool.
Donc Twitch, c'est comme un point d'entrée ou...
C'est une grande plateforme. Imagine-toi, par exemple, t'as ta box, j'en sais rien, SFR, tu vas là-dessus et là-dessus, t'as tout plein de chaînes. Et ben là, c'est à peu près la même chose avec Twitch. Tu vas sur Twitch,
donc
t'as
énormément
de chaînes.
Donc on va sur Internet.
Voilà, ouais.
On va dans Twitch, c'est comme on va sur Internet, on irait dans YouTube.
Comme sur YouTube,
par
en fait.
Oui,
en fait, c'est comme YouTube, mais où tout est en direct.
Ok.
Il y a un petit peu de contenu VOD, mais c'est uniquement les rediffusions. Et c'est pas toi qui va pouvoir mettre en ligne les vidéos, même s'ils veulent changer un petit peu ça bientôt. Il y a que les rediffusions en fait. Il y aura pas d'autres contenus sur Twitch à part du live et les rediffusions de ce qui a été diffusé directement sur Twitch.
Donc on rentre dans un point d'entrée, après il y a une bibliothèque et après il y a peut-être des titres et on voit je sais pas s'il y a une partie de Rayman qui est en train d'être montrée, on dit ah tiens ça m'intéresse, on va dessus. C'est comme quand on zappe en fait avec une télécommande d'une chaîne à une autre quoi.
C'est
on peut aller d'une chaîne à une autre.
Alors après Twitch c'est quand même vraiment axé jeux vidéo, il y a quasiment que de ça. Même s'ils essaient de changer un petit peu, parce qu'en fait Twitch a été monté par Justin TV. Justin TV proposait justement du live de plein de sujets différents, que ce soit du sport, des concerts ou tout autre chose. Mmh. Et finalement, ils ont monté la filiale Twitch pour avoir une filiale vraiment jeux vidéo. Et paradoxalement, Justin TV a fermé au profit de Twitch. Et Twitch maintenant fait marche arrière en reproposant du contenu autre que du jeu vidéo. Ça c'est assez particulier.
Mais ça suit les évolutions en fait finalement.
Oui,
la demande, c'est vrai que c'est quelque chose qui grossit énormément. C'est vrai que on a plusieurs fois eu le débat, on s'est posé la question, mais est-ce que vraiment ces web TV c'est l'avenir des écrans? Est-ce que la télévision va disparaître ou pas au profit des web TV selon vous? Est-ce que comment vous voyez les choses? Toi Sébastien, est-ce que tu penses que c'est l'avenir les web TV?
Je pense, c'est difficile à dire aussi parce que c'est compliqué de quantifier le nombre de personnes qui regardent aujourd'hui la TV. Mmh. C'est vrai que c'est un moyen un peu familial de se retrouver plutôt qu'être devant son ordinateur. En même temps, sur son ordinateur, moi je sais que quand je regarde une émission, elle est sur une fenêtre et je fais d'autres choses à côté. Mmh. Donc c'est, on va dire que dans un monde où il faut tout le temps être un peu plus productif finalement, c'est aussi intéressant. Puis c'est du divertissement en quelque sorte. Donc
Toi Marjo, là-dessus, comment tu vois la chose?
Moi, j'ai une gestion, du divertissement, on va dire, de l'occupation télévisuelle pour l'instant, qui est très axée télévision. Je suis pas du tout dans un mode où je vais aller chercher du contenu sur Internet. Pour l'instant, je suis pas YouTube, mais je sais que les nouvelles générations, à l'inverse, elles sont plus 90% YouTube et ils allument de moins en moins la télé. Parce que, ce qui est nouveau et ce que tu dis intéressant, c'est que, avec tout ce qu'on a regardé, plutôt que de regarder quelque chose qui nous intéresse pas, autant fouiller un peu et trouver quelque chose qui est dans nos centres d'intérêt.
Ouais,
donc je trouve l'idée très intéressante, la multiplication des possibilités, des contenus, de pouvoir voir quelque chose qui est sur des thèmes très particuliers. Mmh. Après je suis pas sûr que l'un va remplacer l'autre, c'est plus pour moi des médias qui sont complémentaires.
Oui, c'est vrai qu'il y a deux choses à dire sur ce que vous avez dit, notamment là, j'ai quelques chiffres, voilà, si tout va bien, c'est bon. J'ai quelques chiffres, notamment chez les jeunes, par rapport à leur consommation de ces écrans. Donc on sait que, par exemple, les 7 à 12 ans passent en moyenne par semaine une dizaine d'heures devant la télé. Qu'ils vont passer 5 heures sur le web et 5 heures sur les jeux vidéo. Donc on se dit comme ça, bruit de décoffrage, waouh, ça fait quand même beaucoup de temps qu'ils passent sur des jeux vidéo, sur des écrans et à regarder la télé. La réalité, elle est tout autre, c'est qu'en fait, ils font tout en même temps. C'est-à-dire qu'ils vont en même temps aller faire des recherches sur Internet et en même temps regarder la télé, et puis peut-être qu'ils vont même avoir un jeu vidéo sur leur téléphone portable. Donc ça, c'est pour les 7 à 12 ans. Pour les 13-19 ans, on sait qu'il maintenant il passerait plus de 10h30 devant la télé, plus de 11h45 sur Internet, et il jouerait en moyenne 7h15 par semaine. Donc c'est vrai que tout de suite on se dit waouh, ça fait des chiffres très impressionnants, mais comme on le dit, quand on fait tout ça en même temps, bah finalement ça lisse la chose sur une semaine. Vous étiez conscient ça, que les gens faisaient plusieurs choses en même temps? Bah toi, c'est un peu ce que tu dis, Sébastien.
Oui, finalement, c'est vrai que moi, c'est un petit peu ce que je fais au niveau des web TV, par exemple, c'est que je regarde ou même des vidéos YouTube. C'est-à-dire que je mets une vidéo et puis je vais faire autre chose à côté. Sauf si c'est vraiment une vidéo un peu plus intellectuelle entre guillemets, où je dois vraiment me concentrer sur ce que la personne dit pour que je puisse comprendre. Autrement, c'est ça. Hein.
Bah c'est comme des gens allumeraient la radio et feraient autre chose. Voilà, on peut très bien.
En conduisant, par exemple.
Alors c'est vrai que là actuellement la vraie force des web TV, ce qui plaît, alors j'ai plutôt parlé des jeunes, parce que pour l'instant on n'a pas tellement de chiffres sur les plus de 30 ans par rapport aux web TV, mais ce qui plaît aux jeunes, c'est que bah il y a cette interaction hein, qu'ils peuvent avoir directement avec leur star, ils peuvent discuter avec les chats, enfin le chat, si ça s'appelle toujours comme
oui,
ça.
Oui, c'est ça, ouais.
Ils peuvent discuter avec les chats et on peut avoir les gens qui réagissent. Moi, je sais que j'en avais fait un petit peu avec mon ami Dap sur une vieille web TV, où c'est vrai que c'était très intéressant de pouvoir proposer donc des parties de jeux vidéo avec des gens qui vont te commenter, qui vont dire bah t'es nul ou c'est bien, continue comme ça. Et c'est vrai que ça fait un échange qu'on retrouve pas forcément dans la télé moderne. Voilà, ça c'est mon avis.
Bah, y a une raison aussi à ça, c'est que les audiences de TV moderne sont trop grandes pour faire ça. Parce qu'on pourrait pas lire les messages. Et c'est ce qui se passe, qui commence à se passer sur certaines chaînes, c'est qu'il y a tellement de personnes qui vont les regarder que le chat sera illisible.
Ouais, c'est sûr.
Et du coup, bah, au final, on arrive aux mêmes problématiques que la télé, alors qu'au début, tout le monde vantait un petit peu les mérites de la web TV en disant, regardez, c'est l'avenir, on peut discuter directement avec les gens, on peut être proche d'eux. Bah, la réalité, c'est que bah on est rattrapé par les chiffres, et quand il y a trop de monde qui parle, et ben
on peut plus rien dire.
Tu veux dire que si par exemple il y a je sais pas 1 million de personnes qui regardent une émission, c'est vrai que s'ils font tous en même temps un commentaire,
ça
devient illisible, impossible.
C'est ça.
Si tu regardes une émission, tu sais que t'es qu'une dizaine de passionnés à la regarder. Justement, effectivement, il peut y avoir des échanges entre ces 10 passionnés.
Tout à fait.
Quand tu grossis les chiffres, ouais.
Par exemple, une des web TV les plus connues en France au niveau du jeu vidéo, c'est O Gaming League of Legend, qui durant la finale a fait plus de 100 000 spectateurs en simultané, en même temps. Donc ça veut dire qu'il y avait 100 000 personnes qui potentiellement pouvaient parler sur le chat. Alors après, il y a des façons de contourner un petit peu ça et de réduire un petit peu le monde qui parle, puisque maintenant les web TV proposent la plupart des abonnements. Et du coup, on peut dire que sur le chat, seules les personnes abonnées peuvent parler quand il y a vraiment trop de monde. Enfin, c'est vraiment au choix du diffuseur.
Et ces abonnements, c'est payant du coup?
Oui, c'est ça. C'est des abonnements. Alors sur Twitch, en moyenne, c'est 5 euros à peu près, enfin 5 dollars. Et donc la moitié est reversée à Twitch et la moitié est reversée au diffuseur.
5 dollars par mois.
C'est ça.
Ouais.
Alors c'est vrai que ça aussi, c'est une particularité de la web TV, hein, c'est qu'on a directement la possibilité, enfin pas toutes, hein, mais de soutenir la personne qui présente en fait la chose. C'est quelque chose qu'on n'a pas trop dans la télé. C'est-à-dire que vous regardez votre web TV, vous avez Sébastien devant vous, vous trouvez que son émission elle est très très cool, bah vous pouvez le soutenir en lui donnant quelques euros, en lui disant je te soutiens. Ça c'est quand même quelque chose d'extraordinaire. Hein.
Le don est très présent aussi. Alors c'est pas de l'abonnement, c'est du don, donc ça veut dire que c'est sur un coup en fait, en quelque sorte. On donne 2 euros, 3 euros, 5 euros. Des fois, il y a des gens qui donnent 50 ou 100 euros d'un coup. Et ça permet de financer les structures, parce que c'est un petit peu le problème, c'est qu'il y a de plus en plus d'audience, mais on a encore un peu du mal à monétiser le contenu, parce que il faut des publicités, les plateformes aussi doivent gérer un petit peu tout le monde, et aujourd'hui, c'est très simple de faire des émissions sur Internet. Il vous faut un PC, une connexion assez bonne, même en, avec la, les, la 4G aujourd'hui, c'est possible de faire quelque chose. Donc c'est un petit peu compliqué encore de financer les structures, et pour les vraies entreprises qui ont des salariés, des gens à payer derrière, parfois c'est très compliqué.
Ouais, c'est vrai que là, la télé, nous, qu'on a, elle fonctionne globalement grâce à la publicité. Aujourd'hui, la publicité sur la web TV, c'est peut-être pas encore suffisant, notamment aussi à cause des moyens de bloquer les publicités, non?
C'est ça, surtout ça le problème, parce qu'avant, ça l'était. Pour vous donner une idée, au début des web TV au niveau du jeu vidéo, la plupart étaient sur Dailymotion. Et ces web TV pouvaient, enfin, une personne pouvait en faire vivre 5 autres, à peu près, en moyenne. Parce que les revenus pub étaient hallucinants. Aujourd'hui, c'est un peu plus compliqué parce qu'avec les bloqueurs de publicité, la publicité sur Internet perd en valeur vraiment beaucoup. Et donc, le moyen finalement de contourner ça, ce serait de diffuser des pubs directement sur le flux, parce que là, les pubs sont superposées en quelque sorte sur l'émission. Donc, si on les bloque, on les voit pas.
Mais je vais peut-être poser une question bizarre, mais est-ce que les gens ont pas commencé aussi à regarder des choses sur Internet pour moins avoir les pubs, les coupures, les temps d'attente? Enfin, si c'est en direct, peut-être que les gens qui font les émissions font aussi des petites pauses de temps en temps. Mais il m'a semblé aussi que les gens s'étaient reportés vers d'autres médias parce que juste il y en a marre quand tu regardes un film qu'il le coupe 4 fois et que il dure 3 heures au lieu de durer 1 heure, quoi. Enfin, donc j'ai l'impression que c'est un peu le chat qui se mord la queue. On va vers un nouveau média pour pas avoir de pub, mais finalement ce nouveau média, pour se financer, il crée aussi des nouvelles pubs.
C'est vrai qu'il y a des gens qui peuvent en vivre derrière, donc forcément il faut qu'ils puissent trouver un moyen de se rémunérer.
Aujourd'hui, la pub, selon moi, c'est plus ce qui est rémunérateur, parce qu'aujourd'hui on voit vraiment le modèle un petit peu d'abonnement et de premium, où les personnes vont vraiment soutenir un site ou une web TV. Quand je dis un site, par exemple, c'est Gamekult, un site de jeux vidéo qui est très, qui fonctionne très bien, et financé complètement par. Ils ont dit on arrête la publicité, ou je sais pas s'ils l'ont arrêté ou réduite, et ils ont dit voilà, on vous propose un abonnement, je crois que c'est 5€ par mois, et du coup bah on peut vous faire des articles de fond qui de base ne seraient pas rentables si on les faisait.
Ah oui, c'est intéressant. Oui.
Et aujourd'hui, ils vivent bien. Enfin, ça fonctionne. Ils ont pu développer un petit peu l'entreprise à nouveau, alors que la publicité s'essoufflait et que c'était compliqué parce que c'est comme ça qu'après on arrive à des articles sponsorisés qui sont finalement pas représentatifs, quoi.
Donc avec du soutien, ils arrivent à faire du contenu de qualité qui va bien à tout le monde, quoi.
C'est ça.
Commercial,
en fait,
déjà.
Il faut se rendre compte en fait que s'il y a pas la pub, ok, on peut faire sans pub, mais derrière, comment on fait? Parce qu'il faut quand même faire entrer de l'argent. Et en moyenne, sur tous ces auditeurs, ça fait, on a à peu près entre 1 et 2% de personnes qui donnent. Ça paraît peu, mais ça peut servir à faire fonctionner une structure.
Très bien, très bien. On va se faire une coupure musicale rapidement, là le temps de souffler un peu pour nous, et on revient dans un instant. Donc vous pouvez toujours réagir via le hashtag R du jeu. Il faut pas que j'oublie, vous me rappellerez tous les deux que je dois faire une annonce concernant Joe l'Indien qui était venu la semaine dernière. Voilà, donc vous me le rappellerez.
Ça marche. Joe, on pense à toi.
Voilà. Allez, là on va se faire une coupure musicale. On va se passer la musique de Castlevania Symphony of the Night. Donc j'ai réussi à trouver cette musique via justement le livre que je disais, les 100 meilleurs albums OST de jeux vidéo. Donc voilà, je vous invite à lire ce livre qui est très très bien et qui me donne pas mal d'inspiration pour les petites musiques. Allez, on revient dans un instant, c'est l'ère du jeu de 12h à 13h.
Drifting high up in the sky that day.
de retour dans l'air du jeu, votre émission qui parle de jeux vidéo, de high-tech. J'espère que vous allez toujours très très bien. Là, on vient de s'écouter donc la musique de Castlevania Symphony of the Night, I Am the Wind. Donc c'est la musique de fin, un peu inspirée de Céline Dion. Voilà, je trouve qu'elle est un peu teintée Céline Dion, cette chanson. C'est la musique de fin, donc j'espère que vous avez apprécié. Tout à l'heure, je disais qu'il faut que je parle de Joe l'Indien. Il faut savoir que la semaine dernière, donc on a eu Joe qui est venu et j'ai oublié de le présenter. Donc excuse-moi Joe. Donc Joe qui est un blogueur aussi, qui tient un blog sur la bande dessinée. Et n'hésitez surtout pas à le soutenir, puisque aujourd'hui il va participer au marathon de la BD. Donc je crois que en 23 heures il doit faire 24 planches de bande dessinée.
Wow.
Ça se passe sur internet, voilà. Donc vous pouvez aller le soutenir d'ailleurs, voilà, lui donner des commentaires, voilà. Et le soutenir, ça commence à partir de 13h, donc là il est dans les starting blocks, notre ami Joe. N'hésitez pas à aller sur son blog, alors que je retrouve, que je vous dise pas de bêtises, c'est Joe l'Indien dans la ville, voilà. Donc vous tapez sur internet Joe l'Indien dans la ville, c'est humoristique, et il nous fait part de ses émotions, de son passé, et de diverses choses. Donc voilà, Joe, voilà, c'est fait.
Allez, lui souhaite bon courage et plein de force et plein de chance pour son marathon.
Ouais, en plus c'est intéressant parce que bon, allez, je me permets une petite parenthèse, mais c'est vrai qu'il a montré qu'il mettait à peu près 50 minutes pour faire une planche coloriée et autres. Il montre les astuces et tout, donc c'est pas mal. Donc voilà, bon courage à toi, copain. Bon, nous on va partir pour la deuxième partie de l'émission de l'ère du jeu. Donc comme on le fait depuis un petit mois, on parle un peu des dangers des écrans pour les enfants. En ce moment, il y a énormément d'études qui paraissent dessus. Il y a beaucoup d'interrogations. Alors, il faudra d'ailleurs que je creuse pourquoi. Je sais pas trop pourquoi en ce moment. C'est vraiment la folie là-dessus. Beaucoup de conférences qui sont données là-dessus. Et donc, on a épluché pas mal de choses. Donc, dans les précédentes émissions, on a parlé de la violence. On a parlé du harcèlement. Donc, on pourrait retrouver tout ça en podcast. La petite transition pour placer les podcasts qu'on pourrait retrouver sur Facebook. Et là, on va parler aujourd'hui des addictions. Aujourd'hui, il y a beaucoup de parents, notamment, qui s'inquiètent parce que leurs enfants passent beaucoup d'heures devant les écrans. Alors déjà, première question pour vous, à chaud comme ça, est-ce que vous trouvez que les gens passent beaucoup de temps devant leurs écrans et est-ce que c'est inquiétant ou pas? Toi, Seb.
Je pense que oui.
Je pense que les gens passent
personnellement
beaucoup.
Je suis tout le temps devant un écran, que ce soit au boulot, quand je rentre chez moi, sinon j'ai mon téléphone ou ma tablette. Donc vraiment, en fait, je finalement ma journée complète c'est presque ça. Donc ouais. C'est vrai que des fois je me dis ça fait quand même beaucoup, donc mais je sais pas trop comment réduire non plus, parce que vraiment tout ce que je fais passe là finalement. Mmh. Même je fais un petit peu de photos et de vidéos et tu regardes finalement quand même un écran du coup.
Ouais,
tu dois
ça.
Voir ce que tu captures, etc. Donc ouais, ma journée, c'est devant des écrans.
Est-ce que tu trouves que c'est dangereux, que ça craint ou pas trop?
Je pense.
Ouais.
Je pense que forcément. Après, c'est aussi pour ça, j'ai des lunettes. Mmh. Et du coup, j'ai fait en sorte d'avoir une correction au maximum pour me protéger des écrans.
Oui, c'est vrai.
Je pense que c'est le meilleur moyen aujourd'hui, peut-être, de se prévenir de ça.
Mmh. C'est vrai qu'ils ont mis en place, je crois que c'était Isidor qui en parlait, ils ont mis en place des lunettes spéciales, en fait, parce que les écrans envoient une lumière bleue, et donc ils ont mis en place des montures et des verres qui permettent de réfléchir cette lumière bleue, donc ça agresse un peu moins les yeux.
C'est ça.
Et donc ça...
Vous pouvez d'ailleurs voir qui en porte quand ils ont des reflets un peu bleus sur leurs lunettes. Alors moi, je les ai pas, malheureusement. J'ai pas pu les en bénéficier. Mais sachez que ça existe et il faut le demander justement à son opticien.
Ouais, moi, j'avoue que ça me tente pas mal. Toi, Marjo, alors, les histoires d'addiction, passer beaucoup de temps sur les écrans, est-ce que c'est quelque chose déjà que tu fais? Est-ce que c'est quelque chose qui t'inquiète ou pas plus que ça?
En fait, je sais pas, il y a deux sujets, parce que c'est pas parce que les gens passent de plus en plus de temps que forcément on est tous addicts, entre guillemets. Enfin, je pense que l'addiction, c'est quand il y a quelque chose de malsain. Quand effectivement, si tu prends une décision et que c'est à l'encontre de ta vie sociale ou de ta famille, là c'est plus dans le négatif, c'est plus du côté addictif. Après, si t'es en harmonie avec toi-même, en harmonie avec ton entourage, je considère pas. Enfin, ça comme quelque chose de malsain. Moi, personnellement, c'est vrai que pareil, enfin, je passe 8 heures au travail sur un ordi de manière assez intensive, souvent le téléphone, etc. Mais pour autant, j'ai pas l'impression d'être dans une démarche addictive par rapport aux écrans. C'est l'évolution de la société, des travails bureautiques et à la fois des moyens de communication. Si on fait des coupures, si on voit des gens, si on sait prendre le soleil quand il y en a, bah voilà, je pense qu'on peut quand même rester relativement équilibré dans sa vie.
Oui, toi tu penses qu'en fait c'est un peu dans la vie d'aujourd'hui, tous ces écrans, ce monde numérique, c'est quelque chose qui est dans l'air du temps, c'est ça finalement.
Oui, et puis il faut pas tout dramatiser, faut pas tout voir tout noir. Par contre, la question elle est quand même assez sensible quand il s'agit des enfants. On parlait tout à l'heure des web TV. C'est vrai que, bah, encore une fois, c'est nouveau, c'est bien, c'est pas forcément mauvais, mais ça amène certaines choses. C'est-à-dire que bah, les gens vont peut-être être un peu plus individualistes dans leur manière de trouver du contenu. Moi, personnellement, je préfère peut-être regarder une émission ou voir quelque chose en commun avec mon entourage plutôt que chacun dans son coin, dans une pièce séparée et avec son ordinateur. Voilà.
Ouais, c'est une vision des choses, pourquoi pas. Hein. Donc concernant les enfants, toi, t'es inquiet pour les enfants par rapport à cette exposition aux écrans ou non? C'est parce que là, on parle des adultes. Donc nous, les adultes, les gens un peu plus vieux, c'est normal qu'on passe du temps devant les écrans, il n'y a pas de souci. Mais pour les enfants...
Bah justement, très bonne remarque. Pourquoi est-ce que pour les adultes c'est normal et pour les enfants ça l'est pas? C'est pas nous on a le droit, ils ont pas le droit. C'est aussi une question d'ouverture au monde, etc. Tu peux peut-être te le permettre aujourd'hui parce que avant t'as fait des choses ou à côté de ça t'es sportif, etc. Faut pas se voiler la face. Si de toute manière que ce soit que des médias virtuels ou qu'une autre obsession, hein, pour dire ce qu'il est, des fois ça c'est pas de l'addiction mais c'est de l'obsession. Si un gamin il a qu'une vision et qu'il a qu'un seul moyen de soit de s'informer ou de communication, ou s'il parle pas avec les adultes mais qu'il est toujours en relation avec des écrans, c'est aussi malsain que s'il parle à ses Playmobil toute la journée et que enfin il est un peu dans son coin. Voilà, c'est une question d'équilibre, je crois.
Toi Seb?
Moi je pense qu'il faut prendre le problème à l'envers par rapport aux enfants. C'est-à-dire que je pense qu'il faut pas les préserver des écrans. Au contraire, il faut les habituer pour que ça devienne quelque chose de la vie qui soit tout à fait normal. Parce qu'à mon avis, on devient un peu addict quand on découvre quelque chose en général.
Ouais.
C'est-à-dire que, bah, par exemple, quand on va découvrir un nouveau jeu, on va y jouer, jouer. Et puis, au bout d'un moment, bah, ça va se tomber, on va moins y jouer, on va moins y toucher. Et je pense qu'à mon avis, ça doit être un petit peu la même chose. Et ça doit faire partie de l'éducation aujourd'hui, parce que la technologie est présente et on n'arrête pas une vague. Donc, du coup, il faut...
Il faut les éduquer.
Selon moi, ouais, il faut que ça fasse partie de l'éducation. Voilà, on est dans un monde numérique, il sera forcément confronté aux écrans. Enfin, ça sert à rien, vraiment, d'essayer de préserver de ça. Par contre, voilà, faut mettre les limites et faire attention, voilà, à la santé, quoi, juste à ce niveau-là.
Il faut accompagner, quoi.
Tout à fait.
Je vais même aller plus loin. Tu dis quand c'est nouveau ou quand c'est interdit. Enfin, oui. On a tous fait quand c'est pas bien ou quand c'est interdit. Bah, justement, c'est tellement marrant de le faire quand même que voilà. Donc, oui, accompagner.
Alors là, on va parler un peu plus spécifiquement des jeux vidéo. Qu'est-ce que vous pensez, vous, de ces médias qui vont, dès qu'il y a, un attentat ou des choses comme ça, vont pointer du doigt les jeux vidéo, vont dire « Ah, bah oui, mais regardez, dans ce jeu vidéo, il y a ce genre de truc. Les jeux vidéo, c'est de la violence. » Qu'est-ce que vous en pensez, vous? Est-ce que vous pensez vraiment que c'est lié ou pas tellement aux jeux vidéo? Est-ce qu'il y a des risques? Toi, Seb?
Moi, je pense pas que ça soit lié, parce que la question des attentats, elle est beaucoup plus géopolitique et finalement de choses qui se passent dans la vraie vie et de sentiments humains. C'est vraiment plus lié à ça que je pense à des écrans ou des violences qu'on pourrait voir dans des jeux.
Toi, Marjo?
Je suis plutôt choquée quand j'entends des choses comme ça, généralement, parce que je trouve que c'est un énorme raccourci, que c'est facile. On n'a jamais lu qu'une personne avait assassiné toute sa famille parce qu'il avait lu un roman policier ou parce qu'il avait regardé une série comme Game of Thrones. qui sont, enfin voilà, dans les livres il peut y avoir des choses très gore, dans les séries aussi, on s'habitue à beaucoup de violence, mais bizarrement celle des jeux vidéo on l'excuse jamais. Donc oui, je suis toujours choquée par les raccourcis. Après, il me semble qu'on en a déjà parlé aussi et développé dans nos émissions. ce qui peut y avoir de différent, c'est que quand on incarne vraiment quelqu'un, on peut aussi se perdre entre le côté virtuel et la réalité. Quand on s'habitue au monde des armes, par exemple, dans un jeu vidéo, c'est vrai que peut-être le fait de passer à l'acte dans la vie de tous les jours est peut-être plus facile parce qu'on s'est familiarisé avec la chose. Mais bon, vous donnez un manuel d'armes à un gamin, oui, il le lit pendant, je sais pas, 100 heures d'affilée, bah, vous lui mettez une arme dans les mains, à mon avis, il est capable de la charger, de la décharger s'il a eu toutes les infos avant. Donc c'est plus une familiarisation avec de la violence qui est dommage. Mais faut pas avoir peur. Enfin, tous les gens qui jouent aux jeux vidéo gardent leur côté humain et sont pas capables de faire des choses atroces quand ils sortent dans la rue, quoi.
Il y a une chose aussi là-dessus. Je permets juste de prendre la parole là-dessus. C'est que effectivement, c'est le jeu vidéo pointé du doigt parce qu'on dit dès que il y a une affaire avec un terroriste ou un meurtre, on va enquêter chez lui, on va voir. Regardez, il a un jeu vidéo violent, il a Call of Duty. Mmh. Ouais, mais tout le monde joue à Call of Duty. Enfin, ça veut rien dire. Donc c'est quand même quelqu'un. Qui a une vie avant, en quelque sorte, donc il a fait les mêmes choses que tout le monde.
Oui, de toute manière, les scientifiques sont plutôt assez d'accord là-dessus. Hein. C'est vrai que le jeu vidéo a tendance à être un bouc émissaire un peu facile. Voilà, il y a quelque chose qui va pas, regardez, il a joué au jeu vidéo. Comme le disait donc une clinicienne du nom de Vanessa Lalo, elle expliquait en fait que finalement, les gens vont jouer au jeu vidéo. Alors prenons un Call of Duty, c'est plus la mécanique du jeu qui va les intéresser plutôt que vraiment... l'acte de tuer des gens, c'est-à-dire que aujourd'hui d'ailleurs ça se voit de plus en plus, on commence à sortir des jeux des FPS, donc des jeux comme Call of Duty
où on va tirer sur... Call of Duty c'est des jeux de guerre, on va dire.
Voilà, c'est ça. Vous voyez en fait ce que voit votre personnage, voilà, et vous avez une arme. On a commencé à mettre en place des jeux où à la place d'avoir des mitraillettes, bah c'est des bombes de peinture et on s'asperge, ou des jeux où c'est des plantes qui vont essayer de battre des zombies. C'est des jeux qui fonctionnent, c'est vraiment la mécanique du jeu, le fait de courir, c'est un peu comme jouer au policier ou au voleur mais de manière virtuelle, on va dire, qui plaît aux gens. Rapidement, je voudrais avoir votre avis sur les enfants qui vont passer beaucoup de temps à jouer aux jeux vidéo. Est-ce que c'est quelque chose d'inquiétant vraiment, c'est-à-dire de voir son gamin qui va passer peut-être 4 heures sur un jeu le soir pendant je sais pas combien de temps. Est-ce que voilà, est-ce que vous pensez qu'il faut vraiment s'en inquiéter, est-ce que vous considérez que c'est de l'addiction, voilà, comment vous voyez la chose? Vas-y Marjo.
Eh ben moi j'ai envie de dire ça dépend à quel jeu. Déjà, ça dépend si voilà, il fait plusieurs jeux, que ses univers sont diversifiés. J'avoue que si mon gosse il passe 5 heures à tuer des gens chaque soir, ouais, je trouverais ça dommage. Comme s'il passait 5 heures à regarder des émissions de zombies ou enfin de séries un peu morbides, etc. Donc faut pas tout mettre dans le même panier. Enfin, on dit toujours jeux vidéo, mais il y a des jeux d'aventure. Il y a des jeux, des histoires, enfin des émotions, il y a des paysages magnifiques. Donc voilà, c'est juste des univers, voilà. J'ai envie de redire, ça dépend quel jeu.
D'accord, pour toi ça dépend du jeu, pour toi Sébastien?
Comme j'ai dit tout à l'heure, je pense qu'il y a aussi l'attrait de la nouveauté, c'est-à-dire que si les personnes commencent à jouer beaucoup d'heures, bah c'est aussi peut-être parce que le jeu est récent. À mon avis, il faut plus voir ça sur du moyen et long terme, comment ça se passe. Il faut cadrer aussi un petit peu, dire que bon voilà, là t'as assez joué, c'est le moment d'aller dormir, par exemple. Après, le souci aussi, c'est que les jeunes, quand ils jouent à certains jeux de guerre, par exemple, bah ils jouent pas tout seuls, ils jouent avec d'autres personnes, des amis, des gens de leur classe. Donc au final, il y a aussi un petit côté un peu social. Après, voilà, il faut quand même contrôler ce qui se passe parce que le jeu vidéo ça peut aussi amener quelques dérives, on peut un peu s'énerver dessus lorsque on perd ou voilà, il faut un peu faire attention à tout ça.
Ouais. Alors, mais on peut s'énerver aussi sur des gens quand on joue à des jeux de société, par
oui,
exemple.
Bien sûr.
Alors selon moi, il y a quand même deux dérives. Attention, il y a donc les gens qui vont jouer aux jeux vidéo et qui vont passer beaucoup de temps dans un premier temps, comme tu as très bien expliqué, de la même manière que bah vous allez découvrir une nouvelle série, vous allez peut-être vous en enfiler 4-5 d'affilée, voire vous faire une soirée là-dessus. C'est juste l'attrait de la nouveauté, donc c'est un peu difficile à couper selon moi. Et après, il y a vraiment, alors on y reviendra sur une autre émission, mais le côté je me camoufle dans le jeu vidéo parce qu'à côté de ça, bah ma vie n'est pas terrible et donc du coup on va se réfugier dans le jeu vidéo, mais c'est un refuge, mais le jeu vidéo resterait plus un outil plutôt qu'une véritable cause de soucis. Je vous propose une dernière coupure musicale. On se fait une dernière coupure musicale et après on passera à la dernière partie de l'émission. Ça vous va?
Je peux ajouter un petit truc par rapport aux écrans, peut-être une petite information pour les auditeurs. De plus en plus, les constructeurs se penchent sur des écrans, enfin une façon de traiter la lumière bleue que renvoient les écrans, qui vous empêche un petit peu de finalement trouver le sommeil. Donc il y a des logiciels qui s'appellent notamment Flux pour les PC et les Mac qui permettent en fait de jaunir un petit peu l'écran en fonction de l'heure. Et du coup, ça vous empêchera, enfin ça va moins vous attaquer l'œil en quelque sorte. Du coup, vous dormirez mieux. Et c'est intéressant aussi parce que je sais pas si t'as prévu de parler de la conférence d'Apple. NAS sur,
J'avais pas encore prévu, mais bah, ça peut se faire.
On pourra en parler un petit peu après, mais voilà, Apple notamment a mis en place sur ses dernières machines ce système-là d'écran qui va se jaunir un peu et du coup qui va atténuer un petit peu la lumière. Donc c'est des choses qui sont en train de se mettre en place et renseignez-vous dessus parce que je pense que c'est important au niveau de la santé.
De consommer mais de se préserver quoi.
C'est ça, préserver les yeux. Moi personnellement c'est ma priorité là-dessus.
Ouais, je comprends. Bon, ouais, bah, on va se passer une musique toujours de Castlevania Symphony of the Night. On revient dans un instant, c'est l'heure du jeu, à tout de suite. Retour dans l'ère du jeu, votre émission qui parle de jeux vidéo, de high-tech. J'espère que vous allez toujours très très bien. Je suis toujours avec Marjo.
Yes.
Yes. Et avec Seb.
Yes.
Seb. Yes, voilà. Donc pour la dernière partie de l'émission, là on vient d'écouter la musique de Castlevania Symphony of the Night. C'était The Tragic Prince. Voilà, donc Très belle chanson et je l'ai un peu coupée, désolé les amis, je vous la repasserai une autre fois en entier. Là, on est parti pour la troisième et dernière partie de notre émission. Et oui, les meilleures choses touchent à leur fin, voilà. On va parler donc, alors comment tu avais dit, le sac de news. Voilà,
c'est le sac de news.
Mais c'est vraiment sorti comme ça en plus. C'est
très bien.
L'imagination du samedi matin.
Où on va parler donc des divers news qui sont tombés un peu dans notre univers. Tiens, voilà, tout à l'heure tu parlais de la conférence Apple. Seb, je vais te laisser en toucher peut-être deux mots.
Ouais, alors j'ai pas tout suivi en détail, j'ai pas tout le détail de tout, mais globalement ce qui est ressorti, bah c'est le lancement de iOS 9.3 qui intègre justement ces écrans, cette fonction pour atténuer la lumière bleue de l'écran. Alors le problème c'est que moi j'étais un peu déçu puisque c'est disponible uniquement sur les dernières machines. Donc moi je l'ai pas, je suis un petit peu déçu. Je comprends pas pourquoi parce que techniquement
ouais, ça peut être compliqué techniquement, c'est une mise à jour hein.
Non,
même pas.
Et ce qui est problématique c'est qu'en fait, il y a quelques je vous parlais de Flux juste avant qui permet qui est ce logiciel qui permet justement de faire ça, d'atténuer la lumière bleue des écrans. Et le souci c'est que Flux avait développé quelque chose sur iOS, sur les iPhones et que bah Apple a décidé tout simplement de le retirer vu qu'ils allaient lancer cette fonction aussi.
Ah oui,
du coup, il n'y a pas d'alternative.
Business is business.
C'est ça.
Ça, Apple, hein, de toute
façon. Mais sinon, la conférence, j'ai trouvé des choses intéressantes. Alors, ça parle un petit peu d'environnement. J'ai pas tout suivi en détail. J'ai vraiment survolé. Ce qui est les choses à retenir, c'est qu'ils lancent un iPad Pro, mais version petit, un peu plus miniaturisé. Alors que l'iPad Pro, bon, c'est quand même l'espèce de grande tablette qui fait la taille d'un écran d'ordi.
Fablette, alors, on se rapprochera plus de la fablette, c'est ça?
Non, c'est juste la taille des anciens iPads en fait.
D'accord, ok.
Donc, c'est assez étrange. Enfin, j'ai vraiment survolé là-dessus. La chose que j'ai trouvé assez intéressante, c'est qu'ils sortent un iPhone, je crois que ça s'appelle iPhone SE, qui en gros, ressemble, je crois, à l'iPhone 5, mais en mode un peu survitaminé avec pas mal de nouvelles fonctions. Et j'ai trouvé ça intéressant parce que du coup, le téléphone est beaucoup plus accessible que les prix pratiqués d'habitude.
D'accord. Ah oui.
Bon,
parce que j'allais dire, bon, ça va encore coûter un bras.
Bah, ça coûte, il coûte 500€. Enfin, $500. Ouais, donc, ça reste cher, ça de l'Apple. C'est quand même du bon produit. Mais, c'était intéressant parce qu'on est quand même loin, des prix qu'on a
actuellement sur des téléphones neufs. Ben, on y reviendra peut-être sur cette conférence. Je regarderai ça un peu plus en détail. Je prends la main. Allez, on enchaîne. je voulais vous parler du PlayStation VR. Voilà. Donc, le casque de réalité virtuelle de la PlayStation 4 qui a été annoncé. Donc, on a une date. Il sortira en octobre 2016 et il sera au prix de 400€.
Moins cher que le nouveau téléphone d'Apple.
moins utile.
Alors, est-ce que pour vous trouvez ça cool, sachant que les autres sont plus dans les 700€, hein, il faut savoir, et ils ont quand même annoncé, Sony, que ce casque de réalité virtuelle sera quand même moins performant que l'Oculus Rift. Il sera quand même moins puissant. Toi, Seb, qu'est-ce que t'en penses?
Moi, je prendrais plutôt celui de Google à 12€.
Voilà, avec le téléphone.
Ça fait un peu le prix de la console elle-même, donc.
Oui, c'est vrai, c'est le prix de la console. Donc, il vous faudra la console, il vous faudra acheter le casque.
Dans 3 ans, quand la console sera obsolète, il faudra acheter une nouvelle console et un nouveau casque.
Il y a peut-être des mises à jour, je sais pas trop leur politique.
On peut peut-être juste refaire un point en disant que pour ces nouveaux, cette nouvelle technologie des casques à réalité virtuelle, du coup, il semble y avoir deux options. Soit effectivement des lunettes dans lesquelles on met son téléphone. Enfin, et du coup, ça adapte le moyen de regarder l'écran.
Voilà.
Soit des casques qui sont, comme une manette peut être liée à une console de jeu.
Ouais, super,
et
ouais.
Du coup, ils sont adaptés à chaque console.
Alors, sur le principe, c'est vrai, on a la possibilité d'avoir donc ce casque de réalité virtuelle avec le téléphone ou avec, connecté à un ordinateur par divers systèmes. Bon, quand même, il faut être honnête. La version téléphone est moins puissante, hein. Vous aurez des jeux peut-être moins beaux, mais bon, ça vous permettra quand même de vous initier à cette expérience à un prix tout à fait abordable.
Après, ça dépend de l'utilisation, encore une fois, parce que si finalement vous voulez utiliser un casque, non pas pour du jeu vidéo, mais pour d'autres choses, comme par exemple Google Maps, ou de la vidéo 360 sur YouTube, et ben finalement un petit casque comme ça suffirait.
Oui, tout à fait. Autre news. Là, en ce moment même, a commencé la Gamer Assembly à Poitiers. Donc, c'est un très très gros rassemblement de joueurs qui jouent en ligne. Donc, imaginez un grand hangar comme celui d'Or Expo. Vous avez plusieurs ordinateurs et plusieurs compétitions. Les gens passent 3-4 jours, voilà, à s'affronter. C'est quelque chose de très très important pour la ville de Poitiers. Déjà, si vous êtes à Poitiers ou si vous êtes dans le coin, on vous invite à y aller. Aujourd'hui aussi, il y a une nouveauté sur Gamer Assembly. Ils ont essayé de développer l'espace famille, donc où on peut jouer en famille avec ses enfants, voilà, initier les parents aux jeux vidéo. Je pense que c'est plutôt une bonne démarche. Et autre point aussi assez surprenant, ils ont développé aussi l'aspect jeux vidéo pour les personnes âgées. Ils ont fait intervenir des personnes âgées dans la conception de jeux vidéo. Donc il y a des gens, des personnes âgées qui sont venus, qui ont créé leur propre jeu, qui vont venir en parler. Et il y a même une compétition de jeux vidéo pour les personnes âgées cette année.
Mais super.
Super. Donc tu trouves que c'est une bonne initiative ?
Bah oui, c'est une super initiative. Enfin, je suis pas pour exclure des parties de la société, enfin dans tous les domaines. Donc en soi, le jeu vidéo c'est comme tout. Si on prend le temps d'expliquer aux gens qu'est-ce que c'est, souvent les gens ont peur de ce qu'ils connaissent pas. Donc voilà, de la même manière que les personnes âgées adorent regarder la télé toute la journée et que ça c'est pas grave, et ben oui, c'est pas mal de les rendre actifs à faire quelque chose et que qu'ils puissent bouger, jeux, ouais, évoluer. Et je parlais d'univers tout à l'heure, qu'ils puissent s'amuser, se divertir et être actifs à faire quelque chose.
C'est quelque chose qu'on dit pas assez, mais c'est vrai que les personnes âgées sont les personnes qui passent le plus de temps aujourd'hui devant un écran. Alors, c'est peut-être pas forcément devant un ordinateur ou devant un téléphone, un smartphone, mais
ça commence à changer. Hein.
Oui, ça commence à changer.
Ma grand-mère a une tablette.
Oui, mais ça se généralise. Mais c'est vrai qu'ils passent, en moyenne, beaucoup de temps devant la télévision. Donc, les jeux vidéo, pourquoi pas? C'est aussi un moyen de se sociabiliser. Toi, t'en penses quoi, Sébastien?
Moi, je trouve que c'est une bonne évolution parce que ce que je trouvais, qui manquait. Alors, c'est vrai que, en fait, à la base, ces événements-là, c'est fait par des gens qui adorent un certain type de jeu, qui veulent créer des compétitions dessus. Donc finalement, c'est vraiment un milieu de niche. Et là, ça, maintenant que ça prend de l'ampleur, et ben on étend à d'autres jeux, on étend à d'autres secteurs, et c'est une évolution tout à fait logique et très intéressante. Je trouve qu'ils font le bon choix parce que finalement, on arrive plus finalement à vraiment un salon, un show avec dedans les tournois majeurs, ce pourquoi les gens viennent et ce pourquoi c'est connu. Et ça permet justement de montrer d'autres choses.
Ouais. Très, très bonne initiative en tout cas de la Gamer Assembly. Nous, on ne pourra pas y être cette année, mais je vous invite à aller faire un tour là-bas. Autre chose qui se passe à Lyon, donc c'est le Funbel Fest. Alors qu'est-ce que c'est le Funbel Fest? Ça se passe à Supinfocom Lyon. C'est organisé par l'association G2L2. D'ailleurs, je profite d'ailleurs pour m'en excuser. La semaine dernière, j'avais annoncé la venue de Kiba. Donc qui est un cosplayer assez connu dans la région, mais malheureusement il a cet événement qu'il organise, on avait un peu oublié ça. Donc voilà, il reviendra nous parler de tout ça. Et donc pendant cet événement, vous pourrez participer à des jeux de cartes, vous pourrez participer à des jeux de figurines, des jeux sur plateau, des jeux de rôle. Il y a la présence d'auteurs de jeux de rôle. Quelque chose vraiment orienté jeu. Pas trop de jeux vidéo cette année, il me semble. Mais voilà, ça se passe à Supinfocom. Donc, c'est dans le 8e arrondissement. C'est une école. C'est surtout le week-end. Ça a un prix d'entrée qui est dérisoire. Je crois que c'est 2 € pour tout le week-end. Donc, voilà, si vous êtes dans la région lyonnaise, que vous aimez les jeux de rôle, les jeux de cartes et autres, c'est possiblement un très, très bon plan. J'en profite aussi. Là, il nous reste 30 secondes pour rappeler qu'on a notre ami Jo, l'Indien dans la ville, donc qui participe à son marathon de la BD. Donc, n'hésitez pas à le soutenir sur la plateforme justement dédiée au marathon de la bande dessinée. Nous, on va bientôt laisser la place au petit bazar. Juste pour moi, le temps de de vous remercier déjà d'être venu, de rappeler aussi que toi, Griff, on peut te retrouver où?
Eh bien, sur plein d'endroits différents, sur Twitter, Griff VOD, ouais, où des fois je pose des infos ou des choses en rapport avec le jeu vidéo ou le marché un petit peu de tout ce qui est ce qu'on parlait un petit peu avant du sport électronique ou des web TV. Et puis sur la web TV DigiWave.
Voilà, sur la web TV DigiWave. Quant à nous, on devrait pouvoir se retrouver la semaine prochaine. Vous pouvez retrouver bien sûr tous nos podcasts sur la Facebook de GameAge ou sur le blog de Radio Canu. Voilà. Et puis voilà, le temps de vous souhaiter un excellent week-end. Et nous, on fait la place au petit bazar. Donc passez un excellent week-end, un bon week-end de Pâques. On vous embrasse. Merci à tous de nous avoir écoutés et à la semaine prochaine.
Salut, ciao, salut.
Salut.